Merci. Donc, comme vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, c'est toujours un tout petit peu difficile de passer juste après un artiste, surtout quand il s'agit de Christian Boltanski. Voilà. Mais j'y vais. Moi, je vais vous montrer énormément d'images sans la plupart du temps les commenter. Tiens, il y a une espèce d'instabilité, c'est intéressant ça, dans la relation au patrimoine. Voilà, vous avez sous les yeux l'affiche. Non, vous ne l'avez plus. Vous avez sous les yeux l'affiche de la Biennale de Lyon 2015, qui, comme vous pouvez le voir ici, s'intitulait la vie moderne. C'est une image extraite d'une œuvre, c'est décidément compliqué, d'une œuvre de Guang Ming, qui, comme vous ne l'ignorez pas, est un artiste de Taipei. Et c'est un extrait d'une vidéo qui fait 7 minutes. J'évoquerai bien sûr cette Biennale 2015, mais je vous parlerai également de la relation entre le musée et la Biennale, précisément la question qui a été posée entre production, commissariat et inscription dans le patrimoine, c'est-à-dire dans une collection. Là, je pense qu'il y a une chose mécanique qui est en train... De toute façon, les images ont relativement peu d'importance, je dis ça, puisque Christian Boltanski est parti. Bon, ok, ouais, c'est bien. Donc ça, c'est l'expo de la Biennale. Si je parle du musée, c'est que musée et Biennale sont totalement imbriqués dans le projet français, donc dans le projet lyonnais. Et je parle de ce musée. Alors là, on est carrément dans quelque chose qui ressemble à... Voilà, non. Il va falloir que je maîtrise le diaporama, on va s'en sortir quand même. Donc, actuellement, je travaille sur la 14e édition de cette biennale. Alors là, je travaille bien sûr actuellement à la 14e édition de cette biennale. Ben non, ça ne fait pas pause. Non, si, ça fait pause. Très bien. Donc, pour cette 14e édition sur laquelle nous travaillons déjà, bien sûr, parce qu'une biennale, c'est tous les deux ans, donc c'est extrêmement rapide, hein, le délai entre deux décisions, entre deux éditions. J'ai invité Emma Lavigne, qui assurera le commissariat de la biennale 2017. Emma Lavigne, pour ceux d'entre vous qui ne la connaîtraient pas, est directrice du centre Pompidou-Metz, quand elle ne travaille pas, bien sûr, pour la biennale de Lyon. Donc, musée biennale, ce sont deux équipes distinctes, mais si je commence par le musée, c'est parce qu'il est tout simplement à l'origine de cette biennale de Lyon et il en est le cœur, la biennale étant d'une certaine manière son extension. Il faut imaginer qu'on part depuis un pays qui est la France, depuis une ville qui est en province et qu'on est désormais depuis les années 85 dans un espace assez large, hein, qu'en général on qualifie de mondialisé, et c'est à peu près le cas puisque c'est sur ce circuit que travaille bien évidemment les biennales. Très rapidement, ce sont des images du musée, là, le musée conçu par Enzo Piano, mais c'est relativement important. Pourquoi je parle du musée? C'est que le lien entre ce qui relève du patrimoine et ce qui relève de l'activité du tous les jours, de la production, de l'actualité, est un lien à la fois ténue et essentielle à Lyon. Il n'y a pas d'une part une biennale et d'autre part une activité qui serait celle d'un musée traditionnel, mais une espèce d'imbrication. Que dire sur le musée d'art contemporain de Lyon? Trois choses essentielles. C'est un musée sans mur. Je reprends là la manière d'idéal type d'un certain Malraux. Hein. Pas de mur, ça veut dire, et aujourd'hui c'est assez fréquent, sauf dans les musées nationaux qui ont été construits bien avant les musées et autres centres d'art d'aujourd'hui. Pas de mur, c'est-à-dire que tous les murs sont possibles. Lorsque vous avez comme ici Marina Ulay Abramovitch, et nous avons l'intégralité des œuvres communes de Marina Ulay Abramovitch, c'est-à-dire quelque chose qui exige environ 1500 à 2000 mètres carrés de surface d'exposition, vous avez forcément une scénographie qui est complètement différente de celle d'une œuvre, par exemple, de Christian Boltanski, surtout si c'est une œuvre invisible et qui est dans les caves. Voilà. Donc, le propre de ce premier point, musée sans mur, c'est-à-dire un chantier permanent. Et ça, c'est essentiel. Bien sûr, là, je parle pragmatique. Chantier permanent, ça veut dire chaque fois une complicité nouvelle avec un état d'esprit nouveau, avec une relation au monde et à l'esthétique, à l'œuvre d'art, donc à la pensée visuelle, absolument essentielle. Deuxième point, c'est évidemment un lieu qui n'est pas un lieu d'histoire de l'art. C'est le cas de beaucoup de centres d'art. Nous, nous le pensons de façon définitive. Comme vous le savez, les collections, la plupart du temps, sont des rassemblements, on va dire, plus ou moins habiles de fragments fortuits qui émanent de choses diverses, de dons, de vols, de récupérations, d'activités un petit peu, quelquefois scientifiques, qu'on organise selon une trame, qu'on appelle l'histoire la plupart du temps. Et à Lyon, pour plein de raisons que je n'évoquerai pas, puisque le sujet, c'est plutôt la Biennale. L'idée, c'est d'avoir des fragments complets, donc une étrange conception. Ces fragments complets sont en fait des expositions, puisque la collection du Musée d'art contemporain de Lyon est essentiellement fondée sur une collection d'expositions. Expositions personnelles, avec des artistes, évidemment, que j'invitais la plupart du temps à partir d'un mot qui interrogeait d'une certaine manière leur œuvre. Le mot, évidemment, ne faisant pas la synthèse de l'œuvre, mais se référant la plupart du temps à un aspect particulier de l'œuvre. Donc là, je vais vous montrer un certain nombre d'œuvres de ce musée. Je les appelle des œuvres génériques, évidemment, par référence aux collections génériques des grands musées nationaux, la Tête, le MNAM, etc., le MET, qui essayent justement de recomposer une histoire de l'art. Et je pense qu'hélas, mais ça, c'était une vieille thèse que j'ai soutenue il y a très longtemps avec Louis Marin, que le musée n'est pas forcément le lieu de l'histoire de l'art, mais ça, c'est peut-être l'influence de Christian Boltanski. Allons vite pour vous montrer quelques œuvres de la collection. Donc, Marina Ulayabramovic, l'égérie aujourd'hui de la performance. Ces œuvres sont des reenactments, comme on dit en français. Marina et Ulay faisaient des performances. Et je les ai interrogées sur une seule question. Qu'est-ce qu'on fait du vivant? Comment le musée peut-il conserver quelque chose qui s'écoule? Le temps, par exemple. On n'a pas réussi à trouver la solution. J'ai donc un premier espace de collection qui sont des photos, un deuxième qui sont des vidéos, lesquelles vidéos ont été remontées par les artistes à partir des documents d'archives qui émanaient de leurs performances, qui, je le rappelle, ne jouaient qu'une fois et qui étaient de véritables performances. Vous avez là cette performance bien connue, Marina et Ulay, l'un en face de l'autre. Il s'agissait de tenir une heure avec la flèche pointée vers le cœur de Marina. Puisque l'image est ici, c'est que la flèche n'est pas partie, bien sûr. Avec les musées, nous connaissons la fin de l'histoire, donc c'est souvent plus simple. Donc d'autres images, et voilà ce que sont devenues ces performances, c'est-à-dire à un certain moment des installations. Je vais vite. Une autre œuvre intéressante qui est une production avec un centre d'art, John Baldessari. C'est une œuvre qui exige 500 mètres carrés de surface d'exposition. Une autre œuvre qui rentre dans le cas de ces œuvres qui existent à travers des certificats. Le certificat n'est là que comme une preuve juridique. Joseph Kossuth, œuvre qui a été ensuite popularisée. C'est une œuvre des années 80, donc très ancienne, popularisée par une exposition tout à fait importante, Chambre d'amis, qui était justement une réflexion sur la relation entre le privé et le public, mais je ne développe pas. Ici, une œuvre de Taiko Chang, qui est une réflexion sur les liens entre Orient et Occident. Vous avez donc un grand 8, et vous prenez ce grand 8 pour admirer ce qui est au plafond, précisément pas ce qui est frontal. Heureusement, c'est un artiste chinois. Nous l'avons acheté avant que les valeurs chinoises ne s'emportent. Et ça a été produit en Chine. Il faut toujours produire les choses en Chine parce que vous gagnez beaucoup d'argent, même si vous payez le transport. Deux œuvres plus exactement de Robert Morris. Avec Robert Morris, j'avais posé une seule question, Mind Body, puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup dans son œuvre. Comment ces choses-là s'incarnent? Comment ces œuvres prennent-elles chair d'une certaine manière? Je détaille pas. Ce sont celle-ci qui est assez complexe à exposer. Un seul idéaliste a réussi à l'exposer. Je le dénoncerai pas, mais il est autour de cette table là. C'est bon. Cette œuvre là est la mémoire de la précédente. 1000 mètres carrés. je voudrais simplement dire que je ne crois pas que plus l'œuvre est grande, meilleure elle est. Mais s'agissant d'une réflexion autour de l'immersion du présent et de l'histoire, il me semble extrêmement important d'interroger l'artiste sur un moment de sa production et de faire en sorte que ce moment-là, cet instant, reste dans l'éternité par le biais de cette transsubstantiation qui s'appelle la collection, le patrimoine. Il s'agit d'avoir un numéro d'inventaire pour que les choses, en France en tout cas, se réalisent. Cette œuvre-là, tant mieux pour nous, n'a pas été acquise par le MNAM parce qu'elle était jugée trop grande. C'est une œuvre de Robert Filliou, La recherche sur l'origine. Celle-ci disparaît de jour en jour. Ce n'est pas l'influence de Christian Woltanski, c'est une œuvre de Daniel Buren qui, justement, absorbe la lumière. Elle s'inscrivait, et c'était un projet d'une biennale qui s'appelait L'expérience de la durée, où cette œuvre-là était installée au musée d'art contemporain. Chaque jour, nous enlevions un panneau de façon que le dernier jour, la salle soit vide et qu'il ne reste plus aucune couleur. Le passage impressionniste de la lumière ne projetant plus que de l'ombre, qui était l'ombre des des poteaux verticaux susceptibles de maintenir les filtres colorés. Il n'y avait plus tout simplement de couleur, il y avait simplement une lumière blanche. Ça, quelque chose de plus conventionnel, c'est un ensemble de Bruce Nauman. Ici, vous comprenez qu'avec le marché, il est de plus en plus compliqué de réfléchir sur une collection d'expositions personnelles. Ça, c'est une exposition récente, elle a à peu près 8 mois, d'Antoine Catala, un artiste français qui réside aux États-Unis. Jardin synthétique, c'est une réflexion sur la communication, on travaille avec des autistes, peu importe, je vous montre. L'espace, donc c'est 500 mètres carrés. Évidemment, en coût de production, c'est rien. En investissement, en aménagement et surtout en stockage, puisque il faut non seulement stocker, mais il faut évidemment repérer les pièces, puisque l'artiste, comme vous et moi, va disparaître un jour. Et à supposer qu'il s'agisse du Michel-Ange du XXIe siècle, il faudra bien réexposer cette œuvre. Par conséquent, il faut, si possible, dans le cas précis, puisque ça dépend des artistes, on l'a vu avec Christian, dans le cas précis, il s'agit de l'exposition telle qu'elle. Donc évidemment, on a des régisseurs dont c'est le métier qui repèrent ce genre de pièces. Dans la collection, et je vais aller très vite, il n'y a pas que des œuvres qui sont des œuvres génériques, des expositions. Il y a un certain nombre d'œuvres que j'intitule des débuts. Ici, c'est un Fontana qui reprend une pièce de 49 qui est probablement à l'origine de la notion d'environnement. La question dans un musée, comme dans une biennale, comme n'importe quelle exposition, c'est qu'est-ce qu'on met après ? Là, c'est une pièce qui a été refaite à l'occasion de la 3e Biennale de Lyon par Nam June Paik, puisque je lui demandais s'il acceptait le principe de refaire sa fameuse exposition de 63 à Wuppertal, qui est la première intervention d'un artiste sur des téléviseurs, qui va, cet artiste, ouvrir une nouvelle voie, un nouveau paradigme, comme on disait dans les années 70, qui est celle de l'installation vidéo. Donc voilà. Donc cette pièce est évidemment datée des deux dates. Il y avait 13 moniteurs à l'époque. Nam June, qui appartient à Fluxus, a dit « Ce qui compte, c'est de ne pas les refaire à l'identique, c'est de refaire ce qu'il reste aujourd'hui des technologies. » Sur l'ensemble des 13, il a repéré 8 technologies possibles, donc il a refait, et la 9e, il nous l'a donnée, qui est une synthèse de toutes les autres. Celle-ci, une pièce de Kabakov, vous avez vu, il n'y a pas très longtemps, un Monumenta de Kabakov. Ça, c'est une pièce assez ancienne, qui est exclusivement composée de documents d'archives, de véritables documents, spécialisés dans les conflits de cuisine collective. C'est donc une œuvre qui est à la fois une œuvre et un document historico-sociologique. C'est à partir de cette œuvre que Kabakov réfléchit à la notion d'installation totale, qui, d'une certaine manière, va faire basculer l'œuvre d'art du côté du théâtre, peut-être, ou du décor. Cette œuvre-là s'inscrirait dans une suite logique. Il consisterait à exposer cette œuvre à côté de Kabakov. C'est une pièce qui a été produite dans une biennale récente, de 2011 à Lyon. C'est une œuvre que j'ai acquise, mais qui n'entre pas dans les musées. Je veux dire que l'œuvre fait 6 mètres de haut, je n'ai pas de hauteur de plafond plus élevée que 5 mètres. Mais évidemment, s'agissant d'une œuvre qui est entrée dans le patrimoine, on peut toujours imaginer, un jour ou l'autre, qu'elle sera, pourquoi pas, présentée de façon définitive si Bernard avait de l'espace dans le hall à Beaubourg, par exemple. puisqu'elle doit être vue de dessus. Kousmirovski, la pièce. Et puis, pour clore cette affaire de lien entre un commissaire, une immobilisation dans l'histoire, et puis quelque chose qui progresse dans le temps, les fameux Toblerone d'Olivier Mossé, c'est une exposition qui exige 1000 mètres carrés, qui est composée exclusivement d'œuvres d'Olivier Mossé. Je vous ai montré celle-ci, puisque ces Toblerone n'ont d'autres fonctions que celle de fondre. Hein. Voilà. Biennale d'art contemporain. Il n'y avait aucune légitimité à Lyon pour faire une biennale d'art contemporain. Il y a eu simplement quelque chose d'assez tragique, me semble-t-il, qui est lié à la Biennale de Paris. Comme vous le savez, les biennales sont des enjeux géopolitiques et géostratégiques. Je reviendrai très rapidement sur les quatre biennales historiques. Biennales, exposition qui réitère d'année en année leurs projets. C'est la Documenta, donc, qui n'est pas une biennale, qui a lieu d'abord tous les 4 ans, puis ensuite tous les 5 ans, qui est créée à la sortie de la guerre et qui se restructure simultanément avec la Biennale de Venise. Ces deux pays appartiennent aux forces de l'Axe et, en créant ce type de manifestation, réintègrent, je dirais, le monde civilisé. En 51, vous avez la Biennale de San Paolo, qui pose la question de la modernité et du reste du monde. Et puis, en 59, vous avez Malraux, qui crée la Biennale de Paris, qui crée une Biennale des jeunes. La question est de tenter désespérément de combler le vide qui est en train de naître entre New York et Paris, New York occupant peu à peu une espèce de leadership mondial. Il s'agissait aussi à l'époque, bien sûr, de présenter les artistes d'Europe centrale qui étaient plutôt derrière un mur. Et c'est un enjeu assez formidable qu'a réussi à faire la Biennale de Paris. Puis, en 85, précisément au moment où la mondialisation galopante s'incarne, la Biennale de Paris, pour des raisons à la fois artistiques, et il faudrait revenir dessus, mais je n'ai pas le temps et ce n'est pas le propos, et financière, c'est aussi important, un trou qui a été fixé à l'époque à plus de 50 millions alors, de francs, il faut donc diviser par 7 ou multiplier par 7, diviser par 7 pour avoir le montant, ce qui fait que cette Biennale de Paris s'est interrompue. Le musée d'art contemporain à Lyon commence sans mur et sans équipe, mais avec un projet de collection, une collection d'expositions donc, qui a tendance à encombrer. Donc, c'est la seule raison pour laquelle les tutelles ont décidé de construire des murs autour, puisque les valeurs d'assurance augmentaient et qu'il faut bien abriter les œuvres. Dès lors, elles ont une valeur, je veux dire, marchande, même si, évidemment, entrer dans le patrimoine, elle ne s'échange plus. Et donc, le musée a commencé à se constituer. Et puis, la réflexion a porté, évidemment, sur cette question des enjeux, désormais, entre l'ici et l'ailleurs. Donc, cette affaire de mondialisation, globalisation, disent les Américains, qui était très peu pensée par les musées génériques. C'est très tardivement que Beaubourg s'est intéressé à ces enjeux-là, c'est-à-dire à peu près 30 ans après la naissance d'un certain nombre de musées ici ou là et de scènes locales en Inde, en Chine, du côté de l'Asie du Sud-Est. Il faut faire une exception. C'est Jean-Hubert Martin qui, en 1989, invente cette chose, ce monstre qui s'appelle les magiciens de la Terre, qui était pensé à l'époque comme un moyen, comme des prémices d'une future Biennale de Paris. Et ça a été un échec localement, ce qui a valu à Jean-Hubert Martin d'aller travailler au château de Waron et puis ensuite de faire une carrière en Allemagne, avant que cette exposition, à tort ou à raison, ne devienne une espèce d'exposition mythique. Alors, sur la mondialisation, on vit la quatrième. N'oubliez pas que la première, c'est environ 75 000 ans avant nous, au moment où les sapiens sortent d'Afrique et vont créer les aborigènes. Nous, on arrivera 35 000 ans après avec les Asiatiques. Bon, puis il y en a eu toute une série comme ça. Aujourd'hui, elle se nomme cette globalisation, cette mondialisation, Internet. Je ne vais pas faire un débat sur la mondialisation. Néanmoins, ces questions-là, en France et en Europe en particulier, sont arrivées très tardivement. Les anthropologues, quelqu'un d'aussi important qu'Apadouraï, par exemple, a été traduit assez récemment, sa Bible est aujourd'hui en livre de poche. Mais cette question, justement, qui consiste à interroger les flux, il s'agit d'une réflexion, entre guillemets, post-coloniale autour de cette globalisation. globalisation, interroger les flux qui sont les flux d'images, les flux de signes, les flux de sens, les flux de capitaux, bien sûr, les flux migratoires, qui modifient, qui recomposent en permanence les communautés avec ce communautarisme, les questions, les grands enjeux qui sont relativisme ou universalité, qui sont les questions de post-colonial, qui sont les questions d'ingérence, qui sont les questions de modernité. Comment aujourd'hui repense-t-on la modernité dès lors que nos amis indiens, nos amis d'Asie du Sud-Est et nos amis de Chine ont décidé de l'investir, c'est-à-dire de reconnaître que les postulats occidentaux sont les bons. Je laisse ça à votre méditation, à savoir que la peinture gestuelle existe, que la peinture existe, que l'artiste en tant qu'unique existe, que le ready-made est quelque chose d'important, que l'installation fait partie d'un univers qu'ils ont complètement intégré, apportant ici ou là des narrations extrêmement subjectives à l'intérieur de ce grand champ qu'est l'histoire de l'art contemporain. Le musée, tel qu'il est pensé en Occident pendant très longtemps, hein, tel que 1793 en France l'a inventé, est un musée qui est fondé sur une histoire. Curieusement, c'est un musée qui ne repose pas sur le visuel. Hein, comme vous le savez, dans une collection, dans un musée, c'est un lieu commun, mais j'aime à le répéter, une œuvre appartient toujours à deux continuums simultanément. Le premier, c'est l'ensemble des œuvres qui sont là, ensemble plus ou moins vaste, plus ou moins générique, plus ou moins limité. Et le second, c'est un continuum invisible. C'est l'interstice qui sépare deux peintures, l'espace qui sépare deux sculptures. Or, curieusement, tous les musées, la plupart des musées, fondent leur visuel sur l'invisible, à savoir sur ces interstices qu'on appelle l'histoire. C'est pour ça qu'on retrouvera très souvent dans des collections de province, dans la salle du 17e, un flamand d'un côté, on opposera des choses qui ne sont pas visibles, mais qu'on sait qui sont par exemple un baroque à proximité d'un Philippe de Champagne, pour bien opposer ces querelles comme ça de territoire. Il s'agit simplement d'ouvrir cet interstice. Michel Riffater, dans les années 70, appelait ça l'intertexte. Donc on était à l'époque complètement sous la dominante du structuralisme linguistique. L'intertexte, c'est à la fois l'histoire et évidemment ce que vous produisez, qui est susceptible de raccrocher désespérément les morceaux pour enfin trouver une cohérence à ces images comme ça un tout petit peu disparates. Et ça, c'est le grand problème, heureusement qu'il n'y a aucun critique d'art dans la salle, c'est le grand problème des commissaires de Biennale, parce que sur une séquence énorme, avec un bon titre, avec un très 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 bon projet, très 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 anthropologue, très bien pensant, il va falloir assurer la narration, et on est passé de l'histoire avec un grand H, à l'histoire-récit, donc plus de grands R, puisque les grands récits sont finis, mais avec des petits R. Et donc cet intertexte, c'est cette espèce de subjectivité. Comment tenir sur 12 000, 13 000 mètres carrés un scénario, hein? Là, on est dans l'ordre des années 50 et d'Hollywood. Et donc, il faut à la fois satisfaire chacune des œuvres individuelles, chacune des productions de l'artiste, tant bien que mal, essayer de tenir le fil et ensuite équilibrer les budgets. Je vais aller maintenant très vite sur la Biennale de Lyon, avant de vous parler de celle de 15. C'est une biennale aujourd'hui qui n'existe plus. Elle se tenait en 1991. La plupart d'entre vous ici n'étaient pas nés. C'est juste une vision extérieure du lieu qui accueillait cette biennale. Peu importe où ça se trouve, voilà l'espace. Première clé pour entrer dans une biennale à l'époque, il s'agit d'avoir beaucoup d'espace disponible. C'est ce qui a rendu extrêmement suspect les biennales, puisque les enjeux géopolitiques, géostratégiques l'emportaient, semble-t-il, de très loin sur les enjeux artistiques. Les biennales, en tout cas en Europe, étaient assez suspectes, puisqu'il s'agissait du city branding, de la collusion avec le marché, et de vastes déambulations liées à la société du spectacle. Plus spectaculaire était la biennale, meilleure était-elle, semble-t-il. Donc il fallait à la fois intégrer dans ce champ un peu nouveau riche et en même temps pouvoir assumer une relative réflexion critique. C'est la seule raison pour laquelle je vous donne l'image de la halle Tony Garnier. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, après 85, Paris n'a pas pu reprendre cette Biennale de Paris par défaut d'espace disponible et par manque de budget. Précisément au moment où partout dans le monde, on a une très très grande création de biennales. Je vais citer surtout les biennales avec lesquelles nous sommes en relation très très étroite à Lyon, Sydney, Istanbul, Gwangju, donc c'est en Corée, Yokohama bien sûr, Dakar, Taipei, São Paulo et Mercosul, qui sont, Mercosul étant la biennale expérimentale du Brésil, Shanghai, Sharjah, Montréal, qui vient de réémerger de ses cendres. Quelque chose de très important en ce moment, c'est-à-dire le lien entre Singapour et Brisbane. Brisbane en Australie, la triennale de Brisbane et Singapour. C'est l'enjeu du leadership en Asie du Sud-Est, donc tout à fait intéressant. Ça permet à nous, occidentaux, d'aller plus vite, parce qu'on est un peu paresseux, de dépenser moins d'argent. Il s'agit juste d'aller à Brisbane et d'avoir une vision à peu près globale de ce qui se passe du côté de toutes ces petites îles entre la Nouvelle-Zélande et Myanmar, que, évidemment, on n'a pas le temps de visiter, parce que nous sommes un petit peu des touristes globaux. Puis je parlerai aussi de Bucarest, petite biennale sympathique mais importante, de Moscou, j'oublierai pas Berlin, Liverpool, Manifesta bientôt, qui cette année se tient à Zurich. Et puis il y a les biennales un peu particulières qui sont celles du Whitney avec beaucoup d'Américains, cette notion d'Américain étant aujourd'hui en train de s'élargir, et puis la triennale du New Museum. Biennale de Lyon, donc la première s'intitulait L'amour de l'art. Chacune des biennales de Lyon appartient à une trilogie. Je donne un mot au commissaire que j'invite. Ce mot vaut pour trois éditions. La chose me semblait extrêmement importante dès 1991, mais suffisamment idiote pour que je mette énormément de temps pour en parler aux uns et aux autres. Et donc le premier à qui j'en ai parlé, c'est la quatrième biennale, lorsque j'ai rencontré un Ralph Zeman et qu'il a bien voulu accepter de faire cette biennale de Lyon. Donc le mot que je lui livrais était global et je lui suggérais un titre qui était l'autre. Il a accepté tout cela avec un œil critique. Donc je vais très vite. Ça, c'est la première biennale de Lyon. Ici, vous avez Armand. Là, vous avez Fabrice Hébert est son plus gros savon du monde, chose qui est rentrée dans le Guinness des records. Il faut imaginer qu'à chaque fois, il s'agit de productions nouvelles, bien sûr. Donc, le lien avec l'artiste est souvent simple, même si on a affaire quelquefois avec des artistes de bonne humeur, quelquefois de mauvaise humeur. Les questions sont simples. Il faut articuler la chose pour qu'elle reste poétique et il faut équilibrer le budget pour que l'édition suivante puisse se faire. Hein. Voilà. Intéressant, ce groupe qui s'intitulait Sans titre était composé de Dominique González Forster, de Parreno, de Pierre Huyghe, et qui avait à l'époque souhaité casser le principe de cette biennale en 91, qui consistait à proposer une grille un peu influencée par Tati d'ailleurs, jouant sur le jeu de la simultanéité. Deuxième biennale, j'assume les trois premières biennales, un co-commissariat, ici c'était avec Marc Dachy. La question était une question évidemment de biennale, mais reposée sur une question d'histoire de l'art. La vraie question, c'est sur quelle histoire de l'art se fondent les biennales, comment on construit les récits. Donc celle-ci s'intéressait à la question des limites, s'intitulait « Et tous, ils changent le monde ». Et on était toujours dans le premier mot que j'avais livré au commissaire, qui était un mot très simple. C'était le mot « histoire ». Ici, on a le fameux carré. Ici, on a Schwitters. Ici, on n'a pas pu présenter Fountain, puisque c'était extrêmement difficile pour une biennale, sachant qu'on n'a pas toujours les conditions d'exposition idéales en termes d'hygrométrie. Nous voulions présenter Fountain. Le musée d'art moderne de Paris, le musée national, pardon, était d'accord. Puis Piloncelli, un artiste violent, l'a tout simplement agressé à grands coups de pioche. Donc on s'est retourné vers Richard Hamilton, qui nous a prêté sa route bicyclette, que d'ailleurs, à l'issue de l'exposition, on a perdu. Or, c'était une route bicyclette qui avait été refaite avec Marcel Duchamp, signée par Marcel Duchamp. Mais après tout, ça n'est qu'un ready-made. Il y en a eu 7 officiels et puis il y en a des milliers qui ne le sont pas. Derrière, c'est l'ensemble de tous les textes écrits par Marcel Duchamp qui, là, appartiennent à la collection du Musée d'art contemporain. 333, il fallait bien avoir John Cage hein, sur l'aléatoire. Et puis, Louise Bourgeois, une dame longtemps inconnue en France, hein, puisque nous avions réalisé la première exposition rétrospective à Lyon en 89. Elle était totalement passée inaperçue. 4 ans après, Libé avait titré première rétrospective en France quand elle a eu lieu au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Vaut mieux travailler dans les grands centres que dans les toutes petites villes, à moins d'avoir une vraie petite ville. Et là, à ce moment-là, vous faites la différence. Là, bon, pas de commentaire, c'est Warhol et Basquiat. J'évoquais tout à l'heure Nam June Paik. Nous produisions cette œuvre de 1962 que je vous ai montré, qui est rentrée dans une collection. Il y avait une autre pièce qui, là, il faut le dire, était intégralement payée par Samsung, qui était composée d'une centaine de moniteurs. Là, vous ne voyez qu'un fragment. Cette œuvre ensuite est repartie, bien sûr, elle a été remixée, elle est maintenant dans une collection en Corée. L'exposition suivante autour du terme global était... autour du terme histoire, pardon, c'est la troisième version du terme histoire, était autour de cette question d'image numérique, image fixe et image mobile. Ici, c'est une des premières œuvres, alors très ancienne, hein, puisque ça se passe en 97. Vous avez Stellark, un artiste australien, qui dialogue avec un troisième bras bionique et qui, à l'époque, est manipulé par les internautes. Mais comme à cette époque, il y avait très peu d'internautes, le bras était relativement peu manipulé et le dialogue se passait avec un robot industriel. Cette pièce n'a pas été acquise, mais bien sûr, cette pièce existe. Elle est toujours disponible si l'un d'entre vous veut l'acquérir. On peut obtenir de très, très bons prix. Elle est plus intéressante pour la mémoire de ce qui se passait, et pour la mémoire et pour l'oubli, bien sûr, que probablement pour le chef-d'œuvre. Néanmoins, d'autres pièces, celle de Domtai, par exemple, qui est le premier groupe, un groupe de Kyoto, qui est intervenu dans les différents champs artistiques, hein, mêlant technologie, chorégraphie, sculpture. Et puis, une pièce importante, c'est le mot suivant, global. Le commissaire est Harald Zeman. Et là, vous avez une œuvre sans gravité qui est composée d'un rouleau compresseur qui tourne pendant quelques minutes. Le même rouleau compresseur qui s'élève dans le ciel. Et puis ici Imri Blackdon qui est saisi d'une des biennales, de la même biennale d'Harald Zeman, simplement pour vous montrer la très grande disparité autour de cette notion d'autre et de global qui avait été incarnée par Harald Zeman. À la suite de cela, 11 ans après Les Magiciens de la Terre, et parce que la biennale était désormais à Lyon et plus à Paris, j'ai invité Jean-Hubert Martin, qui est le commissaire qui construit les plus étranges carambolages entre les œuvres. C'en est du côté de l'énigme. C'est très intéressant sur le plan du commissariat. Ici, vous avez Esther Malangou en bas et Sol Lewitt en haut. Là, vous avez Ravinder, un artiste indien. Ici, des artistes qui groupent dans le sud de l'Inde, travaillent sur des poudres, œuvres rituelles. Ici, Liza Lou de la côte ouest. Et ensuite, je vais enchaîner un certain nombre d'autres biennales sans les commenter, mais vous reconnaîtrez vous-même les artistes. Ça, nous changeons de mot. Nous sommes sur quelque chose qui est totalement lié à la question de l'exposition, la temporalité. De quelle temporalité parlons-nous ? Évidemment, le mélange des temps, le présentisme, qui à l'époque était très fortement décrit par Herzog, François Herzog, et tous les multiples points de vue. Donc là, j'avance. Hein. Une pièce importante de nos collections, La Montée Yang et Marianne Zazila, une œuvre, donc une installation, appelons ça comme ça, musicale, avec ce principe d'une musique infinie. Hein, il s'agit d'un seul son qui passe de façon éternelle, enfin en tout cas pendant la durée de l'exposition. Un artiste anglais, Brian Eno, qui travaille à peu près sur les mêmes choses. Donc pareil, une œuvre produite pour l'exposition qui ensuite est repartie dans ses dans des réserves. Là, on évoque Kaderatia avec un certain nombre de pigeons qui dévorent goulûment des personnages qui sont en grain. Voilà. À partir d'une certaine date, nous changeons d'espace. Nous sommes dans deux lieux. L'idée de la Biennale de Lyon consiste à ne plus focaliser sur un seul lieu, mais se répandre sur la ville, qui sont des stratégies qu'on trouve dans beaucoup de biennales partout dans le monde. Victoria Northorn, en 2011, Argentine, est commissaire d'exposition. Vous avez sur la droite la pièce de Kusmirovski, qui est désormais dans nos collections, et en face, le Pouchador, une œuvre de Laura Lima. Toujours très, très important d'avoir beaucoup de relations à droite et à gauche, notamment chez vos régisseurs et vos directeurs de production, si vous en avez. Il s'agissait pour l'artiste de convier une personne qui, pendant toute la durée de l'exposition, 3 mois, tous les jours, sauf le lundi, pousserait 8 heures par jour, histoire d'essayer de faire tomber un des piliers de la sucrière à Lyon dans lequel se passe la Biennale. Et heureusement, là nous avons beaucoup travaillé avec le Syndéac, nous avons trouvé 2 jumeaux qui ont accepté. Donc ça nous permettait, heureusement, ça nous permettait d'avoir tous les jours quelqu'un qui inlassablement tentait de détruire cette belle exposition. Bon voilà, ça c'est une œuvre tout à fait importante qui dure 1 minute 30. Si quelqu'un sait l'auteur, vous me le direz. Et puis bon voilà, des pièces. Ça, une Afrique du Sud-Yenne qui fait une performance sous le mur qui sépare les Palestiniens et Israël en jouant sur une guitare mal accordée l'hymne israélien. La Biennale 2011, ici Robert Gober, ça se passe là au Musée d'art contemporain, qui évidemment reconstruit avec des scénographies extrêmement différentes à chacune des fois. Là, une certaine idée de l'histoire de l'art, Sperry Diaw, un Brésilien. Là, une image typiquement africaine. Ici, je ne pouvais pas ne pas parler de cet artiste. C'est dommage, c'est un artiste beaucoup plus important qu'on ne le croit, je pense, mais on ne peut pas, évidemment, ne pas s'empêcher d'évoquer le nombre de zéros qui constitue généralement la somme qu'on a à payer. Heureusement, là, nous avons été beaucoup soutenus par un collectionneur privé qui a accepté de prêter les pièces. Par contre, on a dû payer le socle. C'est pas très cher, 18 000 euros le socle. Hein. Heureusement qu'on a eu des gros soutiens pour le transport des œuvres. Je comprends les inquiétudes de Bernard après l'exposition de Jeff à Beaubourg. Tricartine, la jeune scène de la côte ouest. Ça, c'est une œuvre très intéressante qui est rentrée dans notre collection. C'est un artiste qui travaille à partir d'œuvres qui s'autogénèrent, c'est-à-dire que dès lors que l'œuvre est acquise, elle n'est jamais la même et chaque fois que vous la présentez, c'est quelque chose de nouveau. Très intéressant pour une commission d'achat dans le cadre des musées qui, évidemment, a pour objectif de faire en sorte que les œuvres restent identiques. Made in, que dans une fondation privée à Paris, vous pouvez voir sous le nom de Shu Shen, qui est un artiste chinois de Zurich, voilà, de Shanghai, pardonnez-moi. Voilà, quelques images. Ici, nous passons à la Biennale 2015. Donc, c'est Camille Henrot. Je vais passer très vite sur les Li Shicheng. Voilà une œuvre qui est produite et qui, évidemment, à la fin, on restitue. Elle revient au stade de poubelle, puisqu'il s'agit pour l'artiste d'utiliser l'intégralité des éléments qui auront servi à la construction de cette petite passerelle sur laquelle le public est invité à regarder de haut cet hommage à l'expressionnisme abstrait. Voilà, Nina Bayer, une œuvre d'Alex Cortés. C'est une œuvre que nous venons d'acquérir dans la collection. Donc, même chose, c'est une œuvre qui a ses propres dimensions. Donc, on a conservé évidemment les néons et puis les éléments qui composent la pièce. Le reste, évidemment, est en permanence à reconstruire. Et ça fait, comme tous les musées d'art contemporain, environ 30 ans qu'on a des conventions extrêmement claires avec les artistes et les galeries, hein, puisqu'on passe évidemment toujours, enfin, quand ils en ont, mais la plupart du temps, il y a une galerie, histoire d'avoir des conventions qui nous permettent de réutiliser dans tous les cas de figure l'œuvre, y compris dans des espaces qui n'ont pas forcément les mêmes dimensions. Donc chacun des artistes, évidemment, impose ses propres critères. Un artiste là, américain qui vit à Paris, qui vient de gagner un prix du dessin, mais il ne fait pas que du dessin, Cameron Jamie, qui est dans une galerie, entre autres, américaine. Kader Attia, nouvelle version, qui travaille justement sur ces histoires de recollage, raccommode, la façon de raccommoder les cultures, pour aller très vite. Hicham Berada, dont nous avons également acheté la pièce, qui, lui, inverse les cycles lumineux, de façon que les fleurs, pendant la durée de l'exposition, restituent au public leur odeur. Hein. Donc c'est un mélange assez compliqué et assez simple. En même temps, forcément, la pièce à produire est assez simple dans le cadre d'une biennale. Elle est un peu plus compliquée à maintenir dans le cadre d'une collection. On a tous les éléments qui nous permettent de la reconstituer et les adresses où trouver ces fleurs. Il faut savoir qu'une fois par semaine, il faut intégralement nettoyer les vitrines et puis avoir un système assez compliqué pour éviter les toutes petites bêtes qui pullulent. Et vous savez que dans les réserves de musées, les régisseurs sont extrêmement sévères. Tout est interdit du point de vue des insectes et autres petits ingrédients de cet ordre. Une œuvre qui a été produite sur place et qui est repartie, le transport retour a été payé par la galerie. C'est un artiste anglais assez important qui a été au pavillon anglais d'une biennale de Venise. Les œuvres sont produites à Lyon, déplacées, restituées dans les galeries. Toutes ont été acquises d'ailleurs et la convention veut que nous restituions, l'acheteur restitue une part de l'investissement de la biennale. C'est extrêmement difficile à faire puisque chacun des artistes a plusieurs galeries. On n'est pas toujours au fait des ventes. Donc on est en permanence à la chasse pour tenter coûte que coûte de récupérer un tout petit peu d'argent. Autobong, qui aura bientôt une exposition à Paris dans une galerie privée, c'est une pièce qu'on a produite qui est actuellement dans nos réserves. On est en train de négocier, de savoir si on l'acquiert ou pas. On est bien au-delà des 400 kilos par mètre carré. On ne peut pas avoir de plaque de répartition. Tout ça est en béton. C'est en plus un béton qui parle, donc c'est assez compliqué en gestion. Il faut véritablement avoir une très, très, très bonne équipe pour assurer la continuité d'une œuvre. Un artiste de Nouvelle-Zélande qui aujourd'hui vit à Berlin, qui est quelqu'un d'extrêmement intéressé par les hackers et tout ce qui se passe sur Internet, je ne développerai pas. Une artiste italienne qui vit en France, Tatiana Trouvé. Une pièce qui a été produite pour des silos, donc l'image ne restitue pas l'ampleur de la pièce, qui est repartie et qui va être revue et corrigée par l'artiste dès lors qu'elle sera présentée dans un autre cadre. Et puis l'œuvre de Guang Ming, c'est-à-dire d'où est extrait l'image de la biennale celle-ci. Je vais maintenant passer très vite. À côté de la biennale, il y a un certain nombre d'autres expositions dont je suis commissaire. L'idée est petit à petit de développer très largement le projet. Ici, c'est un choix d'œuvres de la collection, des œuvres qui n'appartiennent pas à ce que j'ai décrit tout à l'heure, des œuvres liées à une exposition, mais des œuvres parfaitement académiques, et je l'espère, sont intéressantes. Donc il faut imaginer que l'écran que vous avez là fait 12 mètres par 6. Un Soto qui a été acquis lors de la toute première biennale d'art contemporain. Un artiste de Nouvelle-Zélande, ça c'est la biennale 2000. Ça c'est un ensemble d'œuvres de la collection. Au premier plan, vous avez une pièce de Nam June Paik. Ici, une autre pièce de Nam June Paik, au fond, un Parino, artiste qui est mort dans la Dèche, victime un 31 janvier d'un accident de moto, et les collectionneurs se sont réveillés le lendemain. C'est des pièces qui, du jour au lendemain, sont passées de 10 000 $ à 1 million $. Une exposition qui est un projet que j'aime bien, qui est un projet entre le Musée d'art contemporain, l'Institut d'art contemporain qui est un centre d'art, l'École d'art de Lyon et la Biennale, où nous invitons des artistes sortis d'école d'art, principalement Rhône-Alpes, on est un tout petit peu nationaliste là, qu'on associe à 10 artistes choisis par 10 directeurs de Biennale internationale. Donc c'est une exposition qui n'est qu'un parcours, hein, qui est une espèce de plateforme qui n'a pas d'ambition narrative. Riva, un artiste, produit une peinture assez intéressante. Un artiste d'Asie du Sud-Est, un artiste français. En même temps que la Biennale, il y avait le projet Anish Kapoor à la Tourette, dont j'étais au départ co-commissaire, puis j'étais conseiller. C'est le couvent de la Tourette, une communauté dominicaine, avec un dominicain historien d'art qui fait des choses fabuleuses et qui, au moment de la Biennale, tous les deux ans, tente d'inviter un artiste à prendre possession des lieux. Là, c'était Anish Kapoor. Évidemment, avec Anish Kapoor, il y a eu plus de monde que d'habitude, donc quelques petites images, et on n'ira pas plus loin. Résonance, un projet qui est lié à la Biennale de Lyon. Ah, voilà. Résonance, c'est l'idée d'associer des lieux à présenter un certain nombre d'expositions. Donc là, auparavant, vous aviez... Je ne peux pas aller en retour. Bon, c'était le Palais de Tokyo, voilà, qui présentait quelques artistes à Lyon. Ici, je vais... Voilà, ici, une biennale d'un nouveau type, qui est une biennale dédiée à l'art brut, pour aller vite. Ici, un Artist Run Space, collectif d'artistes. Ici, un autre collectif d'artistes qui s'intéresse aux liens entre architecture et mobilier. Mobilier tout à fait intéressant ici. Voilà. Une autre exposition dans un autre lieu. L'idée est qu'une biennale s'empare du territoire de la ville avec une artiste à l'intérieur. Rassurez-vous, je vais aller encore plus vite. Ça... La Halle des Bouchers à Vienne, si vous allez à Vienne, vous avez encore quelques restos avec plusieurs étoiles, vous pourrez vous arrêter à la Halle des Bouchers, très intéressant. Et là, bien sûr, des manifestations, performances, il y en a en grande quantité. Une plateforme à la Biennale de Lyon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Veduta. C'est un projet qui est monté et conçu avec des amateurs, en convention avec des villes en reconversion urbaine. Là, nous avions, en 2011, construit un White Cube, puisque la réflexion était comment exposer, dans quoi expose-t-on, quelles sont les narrations. Et ce White Cube était en fait autogéré par 18 chômeuses au milieu des HLM, là, et elles ont choisi des choses assez intéressantes. Vous voyez Dan Graham, dans la collection du musée, ce cube blanc a été en activité pendant 2 ans. Là, c'est un kiosque, je passe dans les détails. Et là, cette année, dans Veduta, un ensemble d'expositions conçues avec ces amateurs et des œuvres qui ont été acquises à l'issue de la production des biennales et acquises par le Musée d'art contemporain. Ici, c'est Sunday Jack Akpan, je vais passer très vite. Ici, des pièces de Kim Suja, coréenne. Là, vous avez un ensemble de... Je suis en train de perdre le nom du groupe que j'ai quelque part. Aborigène. Là, vous avez Netko Solakoff. C'est une narration assez intéressante sur un collectionneur africain qui collectionne évidemment dans sa hutte et qui a des Sol Lewitt, mais qui ne peut pas... des Dan Flevin qui ne peut pas éclairer puisqu'il n'y a pas l'électricité. Genre d'humour un peu intéressant. Là, d'autres œuvres, des collections. Et puis, quelque chose d'intéressant que j'essaye de conduire, qui est une réflexion sur l'espace privé. Vous avez ici des œuvres qui ont été prêtées par des artistes invités dans le cadre de la Biennale de l'exposition internationale et qui sont dédiés à des appartements privés. Le propriétaire de cet appartement, pendant les 3 mois de l'exposition, assurer, comme il le souhaite, la vie de ses œuvres. Donc cette œuvre, en s'introduisant dans un espace privé, évidemment change la relation qu'on a à l'exposition. Une exposition, c'est un ticket d'entrée, c'est 2 heures. Si on a pris une carte, on vient 3 fois. La plupart du temps, on ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe quand on vit pendant 3 mois avec une œuvre d'art comme ça qui ne vient de nulle part? Comment on se familiarise? À mon avis, il y a quelque chose d'assez intéressant qu'évidemment le musée en général peut difficilement mener à bien. D'autres exemples d'expositions dans des souterrains comme celle-ci, sans commentaire. Évidemment, ça nécessite une hygrométrie à peu près respectée, des scénographies correctes pour éviter que les pompiers ne viennent nous dire que l'exposition est désormais fermée. Voilà. Je vais simplement, pour clore, donner quelques éléments. Donc 248 000 visiteurs, ce qui est un bon chiffre pour une biennale en province, avec 60% de visiteurs qui sont locaux, c'est-à-dire Grand Sud-Est. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est le nombre de professionnels accueillis, à peu près 6 000, de journalistes, 1 300. Donc il y a derrière cette biennale une infrastructure, une équipe permanente limitée, mais une équipe temporaire extrêmement vaste, donc avec des recrutements sur des durées limitées. Voilà, donc je passe les détails. L'organigramme de la biennale, c'est un organigramme d'une biennale qui est à la fois une biennale de la danse les années paires et une biennale d'art contemporain, pardon, les années impaires. En fait, là-bas, voilà, vous avez en gris les équipes permanentes et en clair les équipes non permanentes. En matière d'art contemporain, donc pour monter cette biennale, nous sommes en fait 4. Deux personnes qui cumulent un emploi au musée d'art contemporain et à la biennale, et une coordinatrice pour la biennale d'art contemporain et un directeur de Veduta. Tout le reste, c'est du personnel qui est embauché temporairement pour la billetterie, la médiation, le montage et l'accueil et le gardiennage. On a malgré tout dans cette biennale une équipe permanente, c'est l'équipe administrative si vous voulez, qui est une équipe qui cumule une année art, une année danse, et dans cette équipe-là nous avons la direction technique, nous avons la direction de la communication et nous avons l'administration bien sûr, puisque malgré tout il y a environ 25 personnes qui travaillent, il faut bien que chaque mois ils aient marge et qu'il y ait des payes qui tombent régulièrement. La biennale est financée par l'État, par la région, par l'agglomération, et avec environ 28% de recettes propres, qui est une part de la billetterie et une part du mécénat assez important. L'organigramme du musée d'art contemporain, avec le même principe, une équipe permanente d'environ 30 équivalents temps plein, et puis une équipe non permanente d'accueil, de monteurs d'exposition, nous utilisons les mêmes entre la Biennale et le Musée d'art contemporain, et ce sont des gens qui tournent hein, sur l'ensemble de la France, voire en Europe, puisque maintenant le métier s'est développé. Et puis, également une équipe non permanente de médiateurs. C'est sur ce projet-là que la ville s'est prononcée, avec à l'époque, parce qu'il faut bien le dire, il y a des emplois qui ne sont pas permanents, donc qui sont destinés au bout de 3 mois, 15 jours, voire 2 ans, en ce qui concerne les gardiens, de se retrouver au chômage. Néanmoins, le projet est passé avec, à l'époque, exceptionnellement, une CGT qui s'est abstenue. Aujourd'hui, je pense que, eu égard à toutes les questions sociales qui se posent, je crois que cet organigramme ne passerait plus. Alors, à tort ou à raison, hein, c'est simplement un constat. Le budget artistique, très rapidement, le commissariat, donc là, les montants sont chargés, et ce n'est pas la paye du commissaire, mais c'est aussi tous les assistants, pardon. Je reviens là-dessus. Production, donc là, on a environ 2,2 millions de budget artistique, qui comprend environ 1 million pour la production, donc production globale, avec 450 000 qui concernent, je dirais, la production spécifique des œuvres et l'accueil du personnel, environ 500 000 sur les transports. Évidemment, tout cela évolue en fonction des biennales et de l'éloignement, et puis aussi des soutiens qu'on peut avoir, notamment des galeries privées. puisque là, évidemment, il y a une relation, on ne peut pas le nier, entre le marché et la biennale, même si, bien sûr, nous essayons d'y échapper. Mais, par exemple, l'œuvre de Liu Wei, Liu Wei est également à la fondation Vuitton, l'œuvre de Liu Wei, que nous avons exposé à la dernière biennale, est une œuvre qui est autour de 180 000 euros production et transport. C'est une œuvre qui a été intégralement financée par la Longue Marche, qui au départ est un collectif d'artistes, aujourd'hui la galerie peut-être la plus puissante à Pékin, et par White Cube. Donc effectivement, on est là dans une relation, non pas de servitude, mais on va dire d'accompagnement avec ces réseaux. Bon, je passe sur le reste. Le catering, très important. Dès que vous avez une grosse manifestation, allez du côté du catering. C'est ce que nous ont appris les gens du rock. On gagne énormément d'argent. Sur la scénographie, là, les salaires, c'est essentiellement les salaires des monteurs. Nous ne travaillons avec aucun scénographe et, dans la mesure du possible, évitez. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Si vous travaillez avec des artistes vivants, ils sont là suffisamment présents et ils ont énormément d'idées, pas toujours d'ailleurs peu coûteuses, mais vous pouvez largement vous passer des scénographes. Pour le reste, il faut imaginer, nous sommes en budget réel, la sucrière n'est pas équipée, donc lumière, mur, aménagement, logistique, montage, démontage, on monte en 5 semaines, on démonte en 8 jours, donc évidemment c'est des grues, nous c'est en plusieurs tonnes que ça se passe, c'est des semi-remorques en pagaille. Pour nous, ce qui nous importe, c'est savoir où vont tourner les semi-remorques. Ça, quand vous aurez un musée, veillez que, surtout si vous avez beaucoup d'espace, que les semi-remorques puissent tourner. Hein. La dernière pièce que nous avons produite avec Yoko Ono, qui est donc un wagon, comme ça, où il a fallu aller chercher le wagon à 300 km, le flinguer dans une carrière, l'amener, une nuit, arrêter les transports en commun, avoir deux grilles de 30 tonnes pour le déposer en 5 minutes sur des rails. Évidemment, ça implique une logistique énorme si vous voulez aller jusque-là. Évidemment, là, je ne parle que du concret, du pragmatisme, mais ce pragmatisme est extrêmement important. C'est ce qui permet, dès lors que vous travaillez, par exemple, dans une biennale où vous faites pas mal d'événements, c'est ce qui fait que la rumeur à l'intérieur du champ de l'art, je veux dire du côté des artistes, est positive. Et c'est ce qui fait que si vous n'avez pas de monnaie d'échange, par exemple, un Angelico ou quelques Rubens, vous permet quelquefois d'avoir des accords d'artistes très très importants, surtout quand l'hygrométrie est moyenne. Sur le catalogue, cette année, 64 000 euros. Le catalogue, c'est extrêmement coûteux, un catalogue. Nous avons cette fois-ci fait un catalogue extrêmement modeste qui ressemble à un guide, qui est un catalogue numérique. Donc sachez que on est au début des catalogues numériques, il y a très peu d'éditeurs qui marchent là-dessus et une grande partie du public qui a plus de 35 ans ne sait pas s'en servir, mais c'est pas grave. Ce catalogue nous a permis, grâce à un éditeur ami, situé quelque part à Dijon, autour du consortium, l'éditeur a accepté de se payer sur les ventes de ce catalogue. Donc, on a pu s'en sortir. Je finis. Oui. Quelques plans qui vous donnent, alors de façon très primaire, la façon dont nous travaillons à Lyon. Voilà. Et je vais clore là-dessus en excusant ma logorée et mon dépassement des horaires. Voilà, merci.